France Culture.
Mais tout de suite, on retrouve le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. François Bayrou se dit bouleversé ce matin par le témoignage de sa fille qui révèle avoir été victime adolescente de violence lors d'un camp d'été organisé par la même congrégation à laquelle appartient l'établissement Notre-Dame de Bétharram. Celle-ci décrit, on le verra, un système qui a réussi à imposer le silence à tout le monde durant des décennies. Nous serons par ailleurs à Rome, plus exactement à la basilique Saint-Pierre où la dépouille du pape François est exposée depuis ce matin. On se rendra également à Londres où là-bas, les discussions ministérielles prévues entre Américains, Ukrainiens et Européens ont été reportés, signe des difficultés à progresser dans les négociations pour trouver une issue au conflit. Enfin, à l'occasion du 20e anniversaire de la première vidéo mise en ligne sur YouTube, on se demandera avec notre invité comment vivent aujourd'hui les créateurs de contenu sur la plateforme de la communauté vidéo en ligne la plus populaire au monde. Pour tous les anciens élèves de l'établissement catholique Notre-Dame de Bétharram, victimes d'agressions, au supplice de devoir revivre leur pire cauchemar à travers leurs témoignages, s'ajoute bien souvent le calvaire de la prescription des faits qui, malgré l'allongement des délais, pourraient vouer à l'échec leurs besoins de justice. Mais pour Hélène Perlan, vient encore se surajouter une épreuve supplémentaire, celle de sortir d'un silence vieux de 30 ans qui fait désormais de son père, François Bayrou, un parent de victime, en même temps qu'un responsable politique, aujourd'hui chef du gouvernement et à l'époque des faits ministre de l'Éducation, soupçonné d'avoir menti sur sa connaissance des violences qui ont eu lieu dans l'établissement. Estelle Caméraire, bonjour.
Bonjour Thomas.
Demain paraîtra Le silence de Bétharram, coécrit par Alain Esquer, et dans lequel la fille aînée de François Bayrou témoigne, mais juste avant, elle s'est donc confiée à Paris Match pour y raconter ses agressions qu'elle a subies et cachées à son père pendant 30 ans. Hélène Perlan évoque notamment un système pervers, presque impossible à comprendre même de l'intérieur, mais qui a réussi au fond à imposer le silence à tout le monde.
Oui, chacun a vécu son drame comme s'il était le seul à le subir. Moi-même, j'ai été dans le système et je n'ai pas vu, raconte Hélène Perlan. Et à l'extérieur, c'est pareil. Tous les parents étaient très intriqués politiquement. Plus on est intriqué, moins on voit, moins on comprend. Elle se souvient des cocktails organisés par son père qui ne savait rien et discutait autour d'un verre avec un surveillant, le maire d'un village, un gars vachement sympa qui organisait des animations. Puis, le reste de la semaine, le même gars cogne sur des enfants. Elle évoque aussi le père Caricard, exfiltré à Rome après 14 plaintes pour viol avéré. Il se suicide et à son enterrement à Bétharram, il y a la terre entière, ma mère y va. Ce n'est pas qu'il cautionne, d'après Hélène Perlan. Les adultes étaient dans le déni et certains le restent, en partie à cause du poids de la religion. Elle ajoute, ils ont invité des curés pour un thé, un repas, des vacances. Reconnaître que ce sont des prédateurs qui cognent et qui viole, plutôt mourir.
Et puis toujours dans son témoignage, Hélène Perlan raconte aussi que l'école Notre-Dame de Bétharram était une fierté locale à l'époque.
Dans un autre article de Paris Match avec d'autres victimes du collectif, elle explique que l'établissement servait de marqueur social. Les gens simples étaient ravis d'y mettre leurs enfants avec des notables. Et pour les notables, c'était comme un club, une confrérie. Les anciens évoquent aussi une grand-mère menacée par le père Caricard si elle parlait de ce qu'avait subi son petit-fils. Le collectif se désole surtout à l'idée d'autres Bétharram comme Notre-Dame de Garaison, peut-on lire dans l'article. Tous sont convaincus que derrière chaque institution fermée, tenue par des religieux et des pions engagés pour avoir la main lourde, il y a un Bétharram. Mais les avancées de l'enquête les rassurent. La police leur a affirmé que tout commence.
Merci Estelle Caméraire. À Châlons en Champagne, là-bas, ce sont au moins 3 anciens élèves du lycée Bayen qui prévoient de porter plainte contre l'État. Ils accusent l'éducation nationale de les avoir laissés face à un enseignant soupçonné de viol, d'agression et de harcèlement moral et sexuel. En l'occurrence, un professeur de français et des arts du cirque maintenu en poste jusque fin septembre 2023, bien que dénoncé dès l'été 2021. Des signalements connus d'ailleurs du recteur de l'époque, Olivier Brandouy, lequel sera nommé directeur adjoint au cabinet de Gabriel Attal au ministère de l'Éducation quelques semaines avant que l'affaire n'éclate.
Bientôt la fin de 2 années de bataille judiciaire.
C'est aujourd'hui que le tribunal administratif de Lille doit décider s'il rétablit ou non le contrat d'association avec l'État du lycée musulman Averroès, privé de ses subventions depuis la rentrée de l'année dernière, après que la préfecture lui a reproché des manquements graves aux principes fondamentaux de la République. Ce que le groupe scolaire, le plus important mais aussi le plus ancien, un établissement privé musulman en France, connu par ailleurs pour ses excellents résultats au baccalauréat, dément formellement, jusqu'à dénoncer, Prune Benedini, une décision politique de la part de la préfecture.
Tout commence avec une note d'inspection. Il y a 3 ans, le directeur du lycée, renvoyé depuis, refuse la visite de son établissement. La note qui en découle dénonce plusieurs éléments. L'absence de livres sur d'autres religions que l'islam ou encore le financement par une association du Qatar en 2014. Par conséquent, la préfecture décide de rompre le contrat d'association avec l'éducation nationale. Le lycée réfute les arguments et saisit la justice. Maître Guesguez est l'avocat de l'association Averroès. Il dénonce un traitement abusif contre le lycée musulman.
Si la préfecture avait simplement alerté le groupe scolaire de ce manquement-là et que le groupe scolaire n'avait pas réagi, je veux bien qu'on discute à ce moment-là d'un avertissement ou d'un rappel à la loi ou de toute autre mesure qu'une décision de résiliation. Mais la préfecture n'a pas procédé ainsi, bien au contraire.
Une première audience a donc eu lieu en mars dernier et pour le rapporteur public, le magistrat chargé de donner un avis consultatif, il n'y avait pas de raison de mettre fin au contrat avec l'État. Selon Maître Guesguez, le groupe scolaire a été visé politiquement.
C'est dire qu'on lutte contre les frères musulmans, contre l'entrisme, contre une stratégie d'infiltration de la société. Or, tous ces élèves-là, tous ces enseignants-là et ce groupe scolaire pris dans son ensemble n'a qu'un seul objectif, s'inscrire pleinement dans la société française, dans la République française, avec une spécificité, être un groupe scolaire musulman et fier de l'être.
Nous avons sollicité la préfecture du Nord qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. Elle attend la décision cet après-midi du tribunal administratif de Lille.
Le Parlement européen réclame plus de 3,5 millions d'euros de dommages et intérêts au Rassemblement national.
Oui, cela fait suite au jugement du 31 mars dernier dans l'affaire des assistants parlementaires, ce qui intègre notamment la réparation du préjudice non seulement financier mais aussi moral, de même que les frais d'avocat, soit 4,5 millions d'euros. Au total, Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors précisons que le parti d'extrême droite a déjà versé 1 million d'euros lors de la procédure, mais surtout Antoine, le RN conteste désormais ce paiement qui lui est demandé.
Oui, alors cette somme ne correspond pas aux amendes prononcées le 31 mars dernier, elle correspond à l'ensemble des sommes versées par le Parlement européen aux assistants parlementaires dont la tâche a été contestée par le jugement en première instance. Dans cette affaire, une partie des personnes condamnées font appel, mais comme l'exécution provisoire a été prononcée par le tribunal de Paris, le Parlement européen peut donc réclamer cette somme avant l'appel. Le Parlement qui dit en quelque sorte au RN « Rendez-nous l'argent que vous n'auriez pas dû percevoir ». Mais le parti peut encore contester ce préjudice en saisissant le premier président de la Cour d'appel de Paris pour demander un délai. Et c'est ce qu'il va faire selon son vice-président Sébastien Chenu. Il était ce matin l'invité de France Info.
Nous contestons, nous considérons qu'il n'y a pas de préjudice pour le Parlement européen. Il y a zéro détournement, zéro emploi fictif, zéro enrichissement personnel. Il y a une procédure d'appel. Je rappelle que Marine Le Pen et le Rassemblement national en appel sont donc présumés innocents.
Le RN conteste pas pour sa survie financière, ça n'est pas une question de vie ou de mort pour le RN qui a connu dans le passé des situations financières beaucoup plus dramatiques. 3,5 millions d'euros, c'est finalement peu comparé aux plus de 15 millions d'euros d'argent public annuel que reçoit le parti depuis les dernières législatives. Sauf que le parti a des dettes contractées auprès des particuliers et à cette somme de 3,5 millions d'euros réclamée par le Parlement européen s'ajoute l'amende d'1 million d'euros prononcée contre le Rassemblement national dans cette affaire en première instance, de quoi contrarier à un éventuel autofinancement de la prochaine campagne présidentielle du RN.
Merci Antoine Maret. Après Mayotte et La Réunion, Emmanuel Macron entame à partir d'aujourd'hui une visite de 2 jours à Madagascar où le chef de l'État assistera demain au 5e sommet de la Commission de l'Océan Indien dont le thème officiel sera la sécurité alimentaire. L'occasion aussi pour la France de renforcer ses liens bilatéraux, comprenez, réaffirmer ses ambitions régionales dans un espace de plus en plus convoité, le tout sur fond de contentieux territoriaux hérités de la colonisation.
Progressiste ou conservateur ?
Continuité ou rupture dans la lutte de pouvoir entre puissances libérales et illibérales du monde entier, lequel de ces deux camps décrochera le Saint-Siège ? Difficile de se lancer aujourd'hui dans la moindre prédiction, non seulement parce que le pape François était sans doute plus progressiste que ne le voulaient les tenants de la ligne dure, mais aussi plus conservateur que ne l'auraient souhaité ceux de la ligne libérale, et puis parce que ce qui se passe à l'intérieur de la chapelle Sixtine avant que la fumée blanche n'émerge bouleverse bien souvent justement justement les pronostics. Seule certitude, le conclave qui désignera le successeur du souverain pontife défunt commencera au plus tard le 10 mai prochain. En attendant, la dépouille de François est exposée depuis ce matin sous les ors de la basilique Saint-Pierre, où les fidèles peuvent lui rendre un dernier hommage avant ses funérailles prévues samedi, surtout avant de reposer pour l'éternité à Sainte-Marie Majeure, c'est-à-dire loin de Saint-Pierre et au plus près de la Vierge Marie, dont la piété aura accompagné tout son pontificat. Mathilde Imberti, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes place Saint-Pierre à Rome, où vous avez pu constater le défilé des fidèles depuis ce matin.
Oui, des fidèles qui s'amassent désormais place Saint-Pierre. La foule s'est densifiée au fil de la matinée et surtout depuis que le cercueil de François est posé dans la basilique, devant l'autel. C'est une longue procession qui s'est mise en route à 9h ce matin de la résidence Sainte-Marthe, où il est mort lundi, vers la basilique. Par ordre hiérarchique, les clercs étaient devant, suivis des évêques, puis des cardinaux. 80 cardinaux environ, ceux qui ont pu arriver à Rome très rapidement. Le cercueil a remonté le long parvis de la basilique. Les cloches sonnant le glas, un cercueil posé sur les épaules des brancardiers du Vatican au costume, un cercueil ouvert pour laisser apparaître François, vêtu de rouge, sur sa tête la mitre papale blanche, entre ses mains un chapelet, de l'apparat donc, et une cérémonie très ritualisée, néanmoins simplifiée par le pape argentin. Il y a un seul cercueil contre trois auparavant pour Benoît XVI et Jean-Paul II. Il est posé à même le sol de la basilique Saint-Pierre, plus sur l'estrade funéraire imposante de ses prédécesseurs. Cette dépouille, les fidèles sont donc en train de la découvrir. Ils parcourent une longue file d'attente. Les plus fragiles se protègent du soleil, car la température grimpe à Rome. Le Vatican ne communique pas encore de chiffres de fréquentation à ce stade. La dépouille reste accessible jusqu'à vendredi. Le cercueil sera fermé précisément à 20h vendredi soir, communiqué à l'instant du Saint-Siège.
Merci Mathilde Imberti, ainsi qu'à Hélène Langlois pour les moyens techniques. C'est l'une des pires attaques menées contre des civils en un quart de siècle hier au Cachemire indien, ce territoire montagneux, objet de conflits depuis des décennies entre l'Inde et le Pakistan, mais aussi foyer de violences séparatistes par des insurgés qui réclament leur indépendance. Des hommes armés ont ouvert le feu sur un groupe de touristes. Le dernier bilan fait état d'au moins 26 morts. Quand la Russie de Vladimir Poutine entend poursuivre sa guerre de conquête, l'administration Trump prétend, elle, vouloir précipiter la fin de la guerre, et en attendant, eh bien, l'Ukraine n'a pas d'autre choix que de continuer à se défendre et l'Europe de la soutenir en garantissant à Kiev le maximum de garanties de sécurité durable. Quoi qu'il en soit, c'est dans ce contexte qu'Américains, Ukrainiens et Européens ont prévu de se retrouver à nouveau aujourd'hui à Londres pour un nouveau round de pourparlers dans la foulée de ceux qui se sont tenus à Paris la semaine dernière. Mais pour se dire quoi, déjà, les discussions prévues avec les ministres ont été reportées, ce qui veut dire que seuls les conseillers devraient échanger entre eux, et même si le bras droit de Volodymyr Zelensky, qui est présent sur place, se dit prêt malgré tout à travailler pour la paix. On ne peut pas dire, Laura Calmus, que ces retrouvailles suscitent un très grand espoir de trouver une issue rapide au conflit.
La situation a pris une autre tournure aujourd'hui. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, devait recevoir son homologue américain, Marco Rubio, qui sera finalement remplacé par l'émissaire spécial pour l'Ukraine, le général Keith Kellogg, qui rencontrera la délégation ukrainienne cet après-midi. Les deux hommes, David Lammy et Marco Rubio, se sont malgré tout entretenus par téléphone hier soir. Dans un tweet, David Lammy a affirmé que le travail pour la paix continuait. Mais dans les faits, les véritables négociations semble au point mort. Selon la chaîne britannique Sky News, l'administration Trump pousserait en effet pour un accord de paix controversé, demandant à l'Ukraine de reconnaître l'annexion russe de la Crimée, une ligne rouge pour Kiev. Volodymyr Zelensky a d'ailleurs catégoriquement rejeté cette proposition hier. La presse britannique évoque également un possible gel des lignes de front, ce qui signifierait une perte territoriale pour l'Ukraine, autant d'éléments qui expliquent pourquoi ces discussions ont perdu en intensité. La France sera représentée par Emmanuel Bonne, le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron. Une délégation ukrainienne comprenant le ministre de la Défense est bien arrivée à Londres.
Depuis l'annonce du retrait américain de l'OMS qui sera effectif au 1er janvier de l'année prochaine, la rumeur avait fini par se propager dans l'air tel un mauvais virus.
Avec un trou de 1,9 milliard de dollars, l'Organisation mondiale de la santé n'a eu d'autre choix hier que d'annoncer de sévères mesures d'économie, comprenant la réduction de ses opérations et bien sûr des licenciements, dont l'impact le plus important est attendu au siège de l'agence onusienne à Genève.
C'était il y a 20 ans, jour pour jour, la publication de la toute première vidéo YouTube allait changer le destin d'Internet et au-delà, celui du paysage audiovisuel.
Oui, dans ce clip intitulé « Me at the Zoo », l'un des trois cofondateurs de la plateforme d'hébergement en ligne avait choisi de se filmer face caméra lors de sa visite du zoo de San Diego, plus exactement, en train de commenter la longueur de la trompe des éléphants en arrière-plan. Rien de franchement très passionnant a priori, sauf qu'à travers cette séquence d'une vingtaine de secondes, à peine, eh bien, il venait d'inaugurer là une nouvelle typologie de contenu qui allait ensuite essaimer jusqu'à faire de YouTube la communauté vidéo en ligne aujourd'hui la plus populaire au monde. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction, Bilal Benbouzid, maître de conférence à l'université Gustave Eiffel, coordinateur en 2024 du numéro de la revue Réseau consacré au marché de la création de contenu. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Peut-être pouvez-vous nous restituer déjà le contexte dans lequel s'inscrivait cette première vidéo et puis à grands traits ensuite comment c'est peu à peu construite la stature de la plateforme qu'on connaît aujourd'hui avec plus de 2,5 milliards d'utilisateurs par an.
Oui, cette première vidéo c'est un acte fondateur vraiment intéressant parce qu'on a là une esthétique de l'ordinaire où n'importe qui peut venir face caméra se mettre en scène et s'adresser à un public. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est que c'est pas eux, YouTube, qui va inaugurer ce genre de vidéo. Hein. C'est le web est déjà peuplé de vidéos. Ce que va faire YouTube, en tout cas les trois fondateurs, c'est qu'ils vont créer une technologie qui simplifie le fait d'uploader, de lire et de partager les vidéos en ligne. Et c'est ça d'abord leur coup de génie, c'est d'avoir vraiment simplifié, même s'il y a déjà d'autres solutions à cette époque, comme Vimeo et plein d'autres. Et Dailymotion est déjà là, hein, la plateforme française. Mais eux vont réussir ça. Mais ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que ces trois entrepreneurs n'ont pas la moindre idée de ce que ça va devenir. Ils ne mesurent pas à quel point ça va devenir le lieu de la convergence médiatique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire où on a, dans un même espace, par la vidéo, tous les types de médias, de la radio à la télévision, en passant par les contenus amateurs ou des conférences, et la musique, tout converge. Et la deuxième chose qu'ils ne vont pas pouvoir imaginer, et c'est ça qui va faire la spécificité de YouTube, c'est cette économie de l'authenticité. Ça veut dire des créateurs avec un lien direct avec leur public, sincère, sans filtre, qui plus ils produisent du contenu vrai, plus ils génèrent des revenus. Et cette spécificité-là, non plus, ils ne pouvaient pas l'imaginer, cette économie de l'authenticité.
Justement, pour bien comprendre comment YouTube a réussi à constituer un vrai modèle économique à part entière dont vivent aujourd'hui de nombreux créateurs, il faut rappeler que tous les revenus ne proviennent pas uniquement de la redistribution des recettes publicitaires. De quelle source de revenus vit-on lorsqu'on est un créateur ou une créatrice sur YouTube ?
Quand on est un créateur ou une créatrice sur YouTube, on a le choix entre 5 canaux de financement. On a un revenu de la régie publicitaire de YouTube, de Google. Donc, c'est les pubs qu'on voit quand on regarde une vidéo. Mais il y a aussi le placement de produits. Donc, ce sont des partenariats directs avec des marques. Il y a le crowdfunding. Donc, c'est des grands financements participatifs. Le merchandising, c'est quand on vend des produits, des t-shirts, des tasses de café liés à la marque de la chaîne. Et puis, il y a les droits d'auteur. Les droits d'auteur, ce n'est pas rien, c'est une spécificité française aussi. En tout cas, on a innové là-dessus, c'est que en fonction du nombre de vues qu'on a générées et des revenus qu'on a générés, il y a une redistribution à travers les sociétés de droits d'auteur. Et donc, en tant que sociologue, nous, ce qui nous a intéressé, c'était de comprendre comment s'organisait le marché à travers ces différents canaux de financement.
Quelques créateurs seulement cumulent les plus fortes audiences de la plateforme. Est-ce que cela veut dire que l'économie de YouTube repose sur la concentration de l'essentiel des revenus par ce petit nombre de créateurs très exposés ? Comment au fond les revenus se répartissent-ils parmi tous les YouTubeurs ?
Oui, alors ça a toujours été la grande question de YouTube, hein, la YouTube monnaie. Et avec beaucoup d'analyses qui montraient qu'il y a une grande inégalité de distribution des revenus sur YouTube. Et grosso modo, c'est ce qui correspond à l'économie des industries culturelles en général, c'est-à-dire une distribution des revenus très inégale où une minorité concentre la majorité des revenus. Mais ce qui a été vraiment très surprenant dans notre analyse, c'est qu'on a vu émerger une sorte de classe de revenus intermédiaires. Au début, on appelait ça les smicards de YouTube. Ça veut dire des chaînes qui parviennent à vivoter, on va dire, un salaire. C'est une fourchette entre 40 000 et 100 000 euros par an. Et cette émergence de classe de revenus, elle fait la spécificité de YouTube. Et c'est ce qui a permis c'est ce qu'on a dégagé de notre enquête sur YouTube.
Une dernière question, quelques mots. Aujourd'hui, YouTube fait partie donc des acteurs incontournables de l'audiovisuel mondial. Selon vous, à quels enjeux le modèle que vous nous avez décrit est-il confronté pour les années à venir ?
Selon moi, ce qui va être intéressant d'observer, c'est comment cette économie de l'authenticité, elle va évoluer avec l'émergence des contenus générés automatiquement. Avec les IA qui permettent de générer de la vidéo, cette notion d'authenticité, elle va changer. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être créateur dans un contexte où les contenus sont générés automatiquement? Qu'est-ce que c'est qu'être authentique? Et je pense que YouTube va devoir faire face à des enjeux assez forts. Et les régulateurs aussi, qu'est-ce que ce sera que réguler cette plateforme où une partie assez importante des contenus seront générés automatiquement?
Merci Bilel Benbouzi, donc maître de conférence à l'université Gustave Eiffel, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi sec et lumineux près de la Méditerranée, humide et couvert partout ailleurs. Quant aux températures, elles seront comprises entre 11 et 21 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.